It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1, tous les matins jusqu'à 9h30, sur CNews jusqu'à 10h30 tous les matins. L'islamisme n'est pas une religion, a dit Gabriel Attal hier. Phrase étrange. L'islamisme est religieux, me semble-t-il. Sans islam, pas d'islamisme. L'islamisme est l'intégrisme de l'islam. L'islamisme est une spirale qui veut tuer la République, a ajouté le Premier ministre. Non. L'islamisme veut imposer sa vision du monde à Paris ou à Moscou, qui n'est pas un modèle de république ou de démocratie. Cette phrase révèle la prudence de nos dirigeants, comme si tous craignaient toujours d'être taxés d'islamophobes. Depuis 2012 et les tueries de Mohamed Merah, ce sont 270 personnes tuées sur le sol de France au nom de l'islamisme. Personne n'oublie Arnaud Beltrame ou Samuel Paty. Je décode, j'interprète les mots de Gabriel Attal comme l'immuable volonté de prendre des gants, de ne pas dire les choses, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, selon une expression que je récuse. Ne pas jeter de l'huile sur le feu sous-entend qu'il y a le feu, mais qu'il faut le taire. C'est contraire, me semble-t-il, à la démarche d'un journaliste. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde combien de fois aurons-nous cité Albert Camus, plus que jamais d'actualité, quand il s'agit de rapporter la réalité. Il est 9h, Chana Lousteau.
L'opération Place Net XXL a été lancée en banlieue parisienne. Gérald Darmanin a publié une photo prise à Nanterre à 5h ce matin. On le voit aux côtés des forces de l'ordre. Et puis, un premier bilan a été annoncé hier soir. Près de 500 personnes ont été interpellées au total en une semaine. Et dans le même temps, il y a eu des coups de feu cette nuit dans le quartier des Moulins à Nice. Une rixe a éclaté, un individu a été blessé à la tête à coups de batte de baseball. Et à leur arrivée, les policiers ont été accueillis par des tirs de mortier d'artifice. Selon le policier Bruno Bartosetti, ce quartier est connu pour être gangréné par le trafic de drogue.
On a été pris à partie hier sur cette intervention avec des tirs de mortier. On a riposté avec gaz lacrymogène et LBD. Mais fort heureusement, on n'a pas déploré de blessés dans nos rangs. Le quartier des Moulins à Nice est, je pense, le quartier le plus dangereux des Alpes-Maritimes. Hein, c'est l'endroit le plus sensible où il y a régulièrement des affrontements entre bandes rivales, régulièrement des tirs ou des tentatives de règlement de compte.
Avec la menace d'attentats qui monte en France, tous les regards sont rivés sur les Jeux Olympiques. Le jour de la cérémonie d'ouverture, Gabriel Attal veut mobiliser 30 000 policiers et gendarmes sur le terrain et 15 000 militaires. Mais est-ce que cela va suffire? On a posé la question au criminologue Alain Bauer ce matin dans la matinale de CNews. Écoutez sa réponse.
Le risque est immense dans un espace non terminé. Vous savez, la sécurité, c'est périphérie, périmétrie, compartimentale. Aucun de ces trois dispositifs ne fonctionne sur un espace ouvert comme la Seine. Le président de la République, après avoir expliqué qu'avec un seul plan, on lui faisait parler, un plan a expliqué qu'il pouvait y avoir des plans B, C, D. Je pense qu'on arrive peu à peu au plan Z et ça sera probablement le meilleur.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Il est toujours très, très bon.
Merci beaucoup, Chana. Merci beaucoup. Nous sommes avec ce matin Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Philippe Guibert, Gauthier Lebret et Lomique Guillot, parce qu'on va évidemment parler un peu de cet déficit public. Les Mozart de la finance ont écrit le Requiem, je le disais la semaine dernière. On va écouter. Le chiffre est au-dessus, c'est ça?
Au-dessus de.
Oui, parce qu'il y a moins de recettes.
Exactement.
Il y a moins de recettes parce que, mais alors pourquoi il y a moins de recettes? Parce que l'inflation a un peu baissé, il y avait plus de recettes de TVA, c'est pour ça?
Oui, la consommation des ménages a un peu reculé et l'impôt des sociétés surtout, les sociétés sont mal en point, elles ont moins fait de bénéfices et versé moins d'impôts. Donc
mais
moins
il
de
explique qu'il n'y a pas eu, plus de dépenses publiques.
Bah, il y en a toujours eu plus. Avec le quoi qu'il en coûte, les boucliers énergétiques, on n'a pas en tout cas fait d'économie.
La ligne de l'exécutif, c'est de dire que c'est le contexte international.
Oui, bah,
c'est le contexte géopolitique avec l'Ukraine, c'est la croissance chinoise qui n'a pas été au rendez-vous. Et donc, on n'a pas pu faire rentrer suffisamment d'argent pour éviter ce déséquilibre.
Moi, je vais prendre un exemple, l'aide médicale d'État. Un exemple. Vous allez expliquer à des gens qui n'ont jamais cotisé de leur vie, qui ont des soins gratuits en France, vous allez expliquer à des gens qui cotisent et qui, eux, payent les soins en France. Vous allez expliquer ça. En fait, ce pays marche sur la tête donc, dans tellement de domaines que c'en est invraisemblable. Alors écoutons M. Le Maire ce matin, qui, entre deux ou trois phrases sur son livre, a quand même parlé du déficit public. Parce que c'est important.
Il en promo.
Ben, c'est important.
Les finances publiques de l'État doivent être établies. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais essayer de vous expliquer comment.
Mais
croyez-moi, ma détermination à rétablir les finances publiques et à repasser, François Langlais citait le chiffre, sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte, je dirais même qu'elle est totale. Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires, parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid.
Le problème, c'est que plus personne ne croit personne, parce que c'est...
L'objectif était de 4,9, on est à 5,5, et effectivement, c'est 3, normalement, la règle européenne.
Oui, alors, honnêtement, ce chiffre de 3, je ne sais même pas de quoi il sort, de quand
c'est
il sort,
pourquoi... C'est un coup premier européen.
Ça ne veut rien dire. Il y a un type qu'un jour qui a dit qu'il faut faire 3. On ne sait pas, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être
4. Non, en revanche...
Non, c'est mieux que 5,5.
Non, attendez, parce que... En revanche,
franchement, le 3, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi 3 et pas 3,5...
Oui, peut-être, mais vous oubliez quelque chose, c'est qu'il y a les agences de notation. Et eux, le chiffre qui vient d'avancer.
Pour les intérêts.
C'est là l'enjeu, justement, précisément.
Oui,
Non, mais
parce que vous vous rendez compte que la première source de dépenses en France, ça va être le paiement des intérêts. Avant de payer vos routes, avant de payer vos hôpitaux, avant de payer vos écoles, avant de payer vos retraités, ça sera les intérêts.
Bon, la croissance est bonne. Il est quand même content, monsieur le maire. Donc bon, on va l'écouter. Non, mais il est content, la croissance est bonne. Il l'avait dit. J'avais dit. Écoutons, monsieur le maire.
Nous avons fait la croissance attendue. Tout le monde me disait que ça va être la récession en 23. J'avais dit qu'on ferait 1% de croissance. Nous avons fait pas loin de 1% de croissance.
0,9.
Mais malgré cette bonne croissance, qui nous distingue des autres pays de la zone euro, nous avons eu des recettes fiscales bien moins élevées que prévues.
C'est un problème d'anticipation,
Bruno Le Maire. Il n'y a pas eu plus de dépenses publiques que ce que nous avions dit. Il y a eu moins de recettes que prévues. Et effectivement, ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'est que le fait que l'inflation baisse plus vite que ce à quoi nous étions attendus, ça fait moins de recettes de TVA, ça fait moins de masse salariale, donc moins de recettes aussi sur la masse salariale, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. La perte de recettes fiscales, au total, elle est de 21 milliards d'euros.
Je vais envoyer à tous ceux qui nous gouvernent ce petit texte. Comment agir en bon père de famille ? Le bon père de famille se veut prudent, diligent, attentif, soucieux des biens et ou des intérêts qui lui sont confiés. Or, lorsque le comportement d'une personne s'est écarté de cette norme, il y a faute, qui peut être simple ou lourde, selon la gravité du comportement ou le degré de déviation par rapport à la norme. Le bon père de famille. Je vous assure, ces gens seraient dans le privé, mais...
Emmanuel Macron a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas en réalité. Il s'est comporté presque comme un joueur de casino. Il a anticipé et espéré des recettes à venir qui ne sont pas venues.
C'est la pyramide de Ponzi. En fait, la France, c'est la pyramide de Ponzi.
C'est de la cavalerie, en fait.
C'est de la pyramide de Ponzi.
C'est de Grèce, ce serait plus de la pyramide de Ponzi.
Comment ?
Non, mais c'est pas grave.
C'est
un jeu de mots parce que je pensais à la série. Non, rendez-nous Pierre Bérégovoy. On va être d'accord, quand même.
Ah oui,
excusez-nous. Non, mais pardon. Bah oui.
Raymond Barre.
René Monory. Un grand. Un très grand. Oui. Voilà.
Non, mais si on est honnête.
Oui. Bah, on ne l'est pas du tout ici. C'est pour ça qu'on est malhonnête.
Si on est honnête, le problème de croissance de la France, il est moins pire que dans d'autres pays.
C'est formidable, c'est moins
et
bien
donc,
qu'ailleurs. On est
vous avez beau
pas qu'en Allemagne.
Vous avez beau le contester, il y a eu un phénomène économique européen.
Sûr. Sauf qu'on l'a surévalué cette croissance. Oui. On a espéré beaucoup plus et on a construit un budget
et
avec
c'est
une
pas
croissance
le problème,
qui n'était pas
réaliste. Le problème numéro un de la France, c'est même pas ça. Le problème numéro un, c'est la réforme de l'État, bon sang de bois.
Oui, mais là,
le conseil régional ne sert à rien. Tous les jours, je le dis.
D'un point de vue politique.
Mon nouveau truc.
D'un point
de vue conseil régional ne sert à rien. Comment ?
Puis ça fait plus d'argent.
Le SIG. Ah ben vous avez du SIG. 120 personnes.
C'est malin.
C'est pareil, quand je suis parti, il y en avait 60 ou 65.
Très intéressant. Il y en a 120 aujourd'hui.
Comment ils ont fait? Je ne sais pas.
Ils ont multiplié par deux.
Ils ont embauché.
Je ne donnerai pas mes sources par charité chrétienne, en plus c'est la semaine, mais quelqu'un vraiment à un certain haut niveau de cet État m'a dit la semaine dernière, ça ne sert à rien. À rien.
Ils ne savent pas s'en servir. Qu'est-ce que...
Ah bon, ils ne savent pas s'en servir.
Ils font des revues de presse le matin, voilà. Ils écoutent les matinales.
Ils ont 120 personnes.
Vous savez bien que rôle du sujet, c'est principalement de faire des sondages. Voilà, c'est pour ça que personne n'en parle.
C'est vraiment intéressant de faire des sondages. Tu as besoin de 120 personnes pour faire des sondages.
Mais il n'y a jamais 120 personnes. Enfin, moi, je ne comprends pas.
Il y en a 120 aujourd'hui.
Moi, j'ai eu parti.
On ne va pas parler du sujet.
D'abord, ils ont réussi à doubler.
D'un point de vue politique, c'est très intéressant de voir qui fait le 20h de TF1 demain. C'est pas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire l'avait fait il y a quelques semaines pour annoncer une première salve d'économie, les fameux 10 milliards. Non, demain, c'est Gabriel Attal. Donc, quelque part, c'est aussi un désaveu pour Bruno Le Maire. C'est le Premier ministre qui monte au créneau pour essayer de trouver une...
Il sera peut-être à la grande librairie, on ne sait pas.
Oui, peut-être en dédicace à ce moment-là.
Les fameux 3%, ce sont les Français du temps de François Mitterrand qui l'ont imposé à Bruxelles. C'est dans le Catherine Ney que je salue. Bon, les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État. Comment ?
C'est dans le cadre de Maastricht, les 3%.
Oui, bon...
Et effectivement, ils ont sauté aussitôt qu'on avait un problème, ils ont sauté.
4 heures. Bruno Le Maire, les dépenses de l'État. Écoutons, troisième passage.
Mais alors, je pense vous avoir apporté la preuve en vous parlant des dépenses de l'État, en vous parlant des dépenses de santé très concrètes, en vous parlant des opérateurs, qu'on peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position. Totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé.
Là, nous sommes d'accord. Mais Mme Braun-Pivet, visiblement, ne pense pas la même chose. Mme Braun-Pivet, j'ai l'impression qu'elle prépare une candidature.
Alors, elle veut une taxe sur les super-profits et elle veut augmenter les impôts. Mais c'est pas un tabou.
Elle prépare une candidature.
Son nom circule. C'est pour ça qu'elle prépare une candidature à la présidentielle.
Et vous savez quel est le ballon d'essai qui va sortir ?
Allez-y.
François Bayrou.
Non mais arrêtez.
Ah, je jure. C'est le candidat du président.
Comment vous prononcez
Arrêtez d'ailleurs de prononcer comme ça parce qu'à Pau, ça crée des émules.
Bayrou. Bayrou, c'est pas un ballon d'essai.
Le président penserait que tous ceux qui ont travaillé au gouvernement, ils auront du mal puisqu'ils auront entre guillemets collaboré à Emmanuel Macron dans 3 ans. Donc on lance François Bayrou.
Arrêtez, Bayrou.
C'est le nouveau candidat de l'Élysée.
Si je peux nuancer celui ou celle qui vous a dit ça, François Bayrou, il y a quelques semaines, il a failli créer un incident politique le plus important depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Il s'organise, il se tait.
Oui, il s'organise, oui.
Il se tait et il s'organise. Les réseaux. Il les met en place.
Dans trois ans. Mais François Bayrou, Jean Castex aussi, puis Elisabeth Borne.
3 ans, c'est long. Oui, mais tous ces gens-là ont collaboré, entre guillemets.
Non, mais c'était de l'ironie.
Oui, mais c'est la nouvelle.
Emmanuel Macron ne veut pas de successeur. Il veut pas de succession. S'il veut se représenter après.
Alors là, c'est la théorie. Voilà. C'est après moi le déluge, c'est Marine Le Pen et moi je me représente. Je pense.
Madame Braun-Pivet. Écoutons-la parce qu'elle, elle est. Il n'y a pas de tabou.
Elle a sa liberté de parole, comme on dit dans la majorité.
Écoutez, elle a sa liberté.
Bruno Le Maire a dit qu'il manquait pour cette année 10 milliards, mais qu'il allait falloir en trouver 25, voire 40 dans les années qui viennent. Tout en disant qu'on n'augmenterait pas les impôts. Mais pour vous, ce n'est pas un tabou, la hausse d'impôts ?
Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun, parce que, vous savez, en 2017, lorsque on s'est lancé en politique et qu'on a suivi l'aventure d'Emmanuel Macron, c'était justement parce que nous refusions les dogmes, parce que nous étions en capacité de regarder les situations telles qu'elles étaient et de trouver des réponses appropriées. Donc, évidemment, nous avons une politique qui a été celle de la relance de la croissance, création d'emplois, permettre aux entreprises de se réarmer, de se réimplanter. Mais nous avons subi un certain nombre de crises qui ont affecté profondément les finances publiques.
Vous rendez compte la capacité d'enfiler des perles et de dire des phrases creuses. Les dogmes, refusons les dogmes, nous étions en capacité, réarmer l'entreprise. En fait, moi, je n'en peux plus de ces phrases-là. C'est tellement creux.
Il y en a une, il n'y a pas de tabou. Alors, il n'y a pas de tabou,
C'est tellement creux. C'est-à-dire que ces phrases qui sont des phrases, des phrases valises.
Bien sûr.
Donc, c'est n'importe quoi.
Mais derrière, il y a un message politique.
Oui,
d'ailleurs, il y a un message politique, en effet. C'est-à-dire qu'elle dit il y a suffisamment de candidats à la Macronie qui se trouvent
à la droite de la Macronie, je vais occuper l'aile gauche de la Macronie en vue de la présidentielle. Oui, pardonnez-moi. Oui. Bah oui, oui, c'est ça la lecture.
Bon.
Et qu'importe l'élection européenne. Bon,
Dupont-Aignan pour terminer, qui était assez virulent ce matin sur les Mozart de la finance.
Si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Vous vous rendez compte, les Mozarts de la finance sont devenus les tocards de la finance.
Tocards, dites-vous ?
Mais la France est en faillite.
Oui.
La France est en faillite. Et ce qui me révolte le plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit un livre avant la présidentielle où Val Pognon. Un livre concret où je recensais des économies. Parce que c'est facile de critiquer un déficit si on ne propose rien.
On va en parler.
J'ai proposé des économies. Ce qui me révolte le plus, c'est que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois, que les finances dérapaient. Ils le savaient.
Là, en plus, il met le doigt sur quelque chose qui est juste. En plus, les chiffres ont été cachés, vous êtes d'accord ?
Oui, les sénateurs sont allés les voir la semaine dernière à Bercy. Effectivement, on le disait tout à l'heure, les prévisions de croissance ont été surestimées et sans doute que la réalité était connue. Oui.
Bon, écoutez, c'est la vie. Je ne sais pas qui paiera, vous, moi, mais...
Pas plus moi que vous.
Comment ?
Non mais le problème c'est que personne ne veut.
Mais si, on veut.
Tout le monde, cette bonne guerre, hein,
oui, on veut.
Macron, hein, cette bonne guerre. Hein,
mais c'est pas Macron là, en l'espèce, c'est pas Macron, c'est le système qu'on... En fait,
oui, mais...
je répète tous les matins la même chose, le privé marche plutôt bien. L'État, c'est juste une catastrophe. Voilà. Les chefs d'entreprise, les entreprises, la bourse française,
ça
tout ça,
pareil,
ça marche.
Hein.
Comment ?
Ça marche pas pareil.
Eh bien, faudrait que ça marche pareil.
Bah non,
justement.
Ça marche pas pareil.
Eh bien, si on va faire que ça marche pareil, figurez-vous.
Ben non, ça peut
parce
pas marcher.
Parce que sous Giscard,
il y a une différence.
Bon père de famille. Ça peut pas marcher, ça, ouais. Bon père de famille. Raymond Barre, ça peut pas marcher. Le conseil régional qui sert à rien, ça peut pas marcher. Le SIG qui sert à rien, ça ne peut pas marcher. L'AME qui sert à rien, ça peut pas marcher.
Ah non,
on peut pas enlever.
Ça sert à quelque chose.
Ah, d'accord.
Ce qui est incompréhensible, c'est quand on entend Bruno Le Maire dire qu'il va faire 10 milliards d'économies sans prendre dans les poches des Français, que c'est des économies presque faciles à faire quand on l'entend. On veut dire, mais pourquoi il les a pas faites avant si c'est si facile?
Il y a 2 milliards, paraît-il, au Sénat. Il y a 2 milliards. Boum, tu prends les 2 milliards du Sénat, à quoi ça sert? Pourquoi tu les prends pas ?
Heureusement qu'ils n'ont pas voté maintenant.
Non, mais il n'y a pas de vrai sujet. Pourquoi répondez à ma question. Il y a 2 milliards.
C'est notre état social.
Il y a 2 milliards d'argent qui dorment au Sénat. Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question ?
Ça doit être les retraites des sénateurs, en plus.
Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, promettait une baisse de 2 milliards d'impôts pour les foyers les plus modestes.
Bon, Gabriel Attal.
Le vrai sujet, c'est notre système social. On le répète à chaque fois.
Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ami.
C'est quand même une partie du
problème. C'en est une, mais il n'y a pas que ça. Il y a également.
Il y a d'autant moins que ça que lorsque.
L'islamisme.
Lorsque le système social est géré mutuellement par. Par les patrons et par les syndicats,
ça marche mieux.
Et c'est justement ce système social-là qu'ils veulent détruire.
Agir Carco, ça marche.
Agir Carco, voilà. Et pourtant, ils veulent le détruire.
Exactement. Parce qu'ils veulent repérer.
Donc, c'est pas le système
social. Mais en fait, vous avez peut-être raison.
C'est pas le système social du tout.
Bien sûr.
Mais
Georges Fenech n'a pas parlé. Non, mais vous n'êtes. Philippe, je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas crédible sur ces questions-là.
Pourquoi donc ?
Mais parce que vous dépensez de l'argent depuis toujours, vous avez été dans l'État et vous êtes responsable de ce qui est arrivé.
Mais quelle est votre crédibilité ?
Moi ? Moi, je suis dans le privé. Georges ?
Ben moi, j'ai écouté votre édito.
Ah ben, on va en parler, tiens, les amis.
Vous étiez là, oui.
Et on en parle maintenant.
J'ai écouté votre édito. Vous avez repris ce qu'a dit Gabriel Attal. L'islamisme n'est pas une religion.
Oui, on en parle si vous voulez. On l'écoute
si vous voulez, je vous dirai ce que j'en pense.
Voilà. On écoute Gabriel Attal parce que cette phrase, elle est étrange. Mm-hmm. Et je trouve qu'elle est significative. Écoutons le Premier ministre de la France.
L'islamisme n'est pas une religion. Ce n'est même pas une simple idéologie. C'est une spirale, un engrenage de la haine qui se nourrit de notre naïveté et qui veut tuer la République. Le terrorisme peut frapper partout, peut s'en prendre à n'importe qui. Et malheureusement, nous avons des exemples dramatiques encore ces derniers mois dans notre pays d'attaques terroristes qui s'en sont pris à nos concitoyens.
Georges Fenech.
Moi, je dirais que l'islamisme, c'est un dévoiement d'une religion, qui est l'islam. Voilà. On ne peut pas déconnecter l'islamisme de la religion. Et ce qui est vrai dans l'islam, vous le retrouvez dans toutes les religions. Toutes les religions du livre ont leur propre dévoiement. Je ne vais pas citer d'obédience, parce que je ne veux pas qu'on ait de procès, mais ça existe partout. Sauf que l'islamisme emploie des moyens de terreur, de violence. C'est toute la différence entre ce qui peut exister au sein de la religion islam et des autres religions du Liban, voyez-vous. Donc, c'est, pour un mot, c'est une dérive sectaire, violente.
Je réponds quand même.
Joseph Massescaron, voilà. Joseph Massescaron sur la phrase de Gabriel Attal.
L'islamisme est une religion. Et je vais vous dire exactement depuis quand. C'est une religion depuis le temps des Omeyyades. C'est une religion depuis le moment où a été tranché de savoir si le Coran était un livre créé ou incréé. Et le Coran a été considéré, évidemment, par les islamistes, par nature, comme étant un livre incréé. Quand vous regardez à partir des Omeyyades, vous avez...
C'est
un
quoi les Omeyyades parce que
faut... Les Omeyyades, pardonnez-moi, les Omeyyades, c'est une grande dynastie, évidemment, musulmane, qui notamment régna à Damas pendant à peu près 2 siècles, et qui, c'est les très rigeurs de l'islam. Mm. C'est là où il y a Avicenne, les grands savants, etc. etc. Donc,
mais
vous avez...
tout le monde ne connaît pas forcément cette
dynastie. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans le même mouvement, une science arabo-musulmane qui emprunte évidemment aux chrétiens d'Orient, qui explose littéralement, et de l'autre côté, vous avez un obscurantisme terrible. Et ces deux mouvements, qui sont vraiment deux religions, car l'islamisme est une religion, vont cheminer côte à côte, et parfois, il va y avoir des éléments qui vont se pénétrer et s'interpénétrer. C'est pour ça que c'est aussi difficile.
C'est très intéressant.
Donc oui, l'islamisme est une
très
religion.
Très intéressant de refaire
et ne pas reconnaître que l'islamisme est une religion pose un problème.
Et de l'histoire, mais revenons les pieds sur terre aujourd'hui.
Mais c'est les pieds sur terre.
Non, non, là vous nous faites.
Non, mais pourquoi c'est les pieds sur terre?
C'est très intéressant, alors, et qui est vrai.
Non, Georges, je vais te répondre pourquoi c'est les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est parce que Daesh en Khorasan. Pourquoi ils disent Khorasan? C'est pourquoi? Parce que c'est justement ainsi que, dans les, au temps des Omeyyades,
on nommait toutes
ces géographies. Mais oui, mais ça veut dire que si on ne connaît pas l'actualité, si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire des religions...
Non, mais si Joseph le rappelait, mais permettez...
On est totalement
au-delà de cette querelle sémantique, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle. C'est que ça révèle. C'est comme si vous disiez, une voiture avec cette vitesse n'est pas
une voiture. Écoutez, les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Voilà. Expliquez-moi pourquoi.
Mais parce que je vous l'ai dit.
Expliquez-moi pourquoi. En nombre, j'entends. En nombre.
Mais pourquoi vous dites ça ?
Je vous l'ai dit précisément.
Parce que on ne peut... Si on commence à dire que l'islamisme...
Charlotte Dornelas.
Et l'islam, c'est la même chose. Et ça, je l'ai entendu chez certains responsables politiques.
C'est précisément...
Là, on rentre dans un scénario du pire.
Oui.
Du pire pour la vie en communauté dans un pays.
Excusez-moi.
C'est l'amalgame. L'islamisme issu des frères musulmans, c'est un projet politique qui se détache du simple fait religieux pour imposer une vision du monde.
Comment sont perçus les musulmans non islamistes?
Mais comme des mécréants, comme des faux musulmans. C'est pour ça que je vous dis.
Donc c'est une religion.
Votre réponse est terrible.
Mais oui.
Si vous considérez que c'est une religion, vous êtes en train de dire la même chose que
c'est
Joseph
une minorité.
Mais non, non, mais vous venez de dire exactement la même chose
Vous voulez en venir où, franchement?
Charlotte, quelle
est votre démonstration?
Ma démonstration est qu'on considère l'islamisme à part entière comme une religion. Et justement, tous les gens qui veulent défendre l'islam devrait être sur cette ligne-là, précisément.
Charlotte. Laisse la responsabilité.
Précisément. Mais pourquoi?
Parce que c'est dangereux de dire ça.
Ça veut rien dire.
Mais pourquoi?
Parce que c'est de l'amalgame.
Mais il n'y a pas d'amalgame.
Mais justement, puisque l'un et l'autre se fondent sur le Coran.
Donc vous avez
une lecture quiétiste.
Charlotte.
Et vous avez une lecture violente.
Non, Georges, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Il y a une lecture où le Coran est considéré comme un livre créé et considéré comme un livre incréé. S'il est incréé, on ne peut pas le discuter.
Charlotte.
Voilà, c'est tout.
Non, mais je connais Georges par cœur. Georges est muet par la. Vous avez peur. Voilà.
J'ai pas peur.
Non, j'ai pas peur du tout.
Mais
je connais ça.
Non, je ne me rends pas compte.
Comme Gabriel Attal, vous êtes tous là-dessus, vous ne voulez pas dire les choses.
Je les ai dites très clairement, mais vous ne voulez pas m'entendre.
Mais vous ne partagez pas ce point de vue.
Mais
d'ailleurs,
votre droit.
Vous venez de dire, c'est dangereux de dire ça, ce qui ne veut rien dire.
C'est dangereux pour la cohésion nationale.
Mais c'est pas le sujet.
Vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur tout le monde musulman.
Personne ne dit ça. Ce qui m'intéresse toujours dans nos débats, c'est qui dit entre ça, guillemets la vérité. C'est ça la oui. démarche journalistique. Non, mais qui dit ça, voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse.
Vérité, c'est bon, que l'islamisme est une déviance de l'islam.
Ah, voilà. Bah non, depuis Maxime Brasson, on sait que... Voilà.
Moi, je suis désolé. Que... Charlotte, non. Charlotte, et après, on verra Thomas. Et après, ça sera la pause. Charlotte.
Je ne suis pas exégète du Coran, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une bataille pour savoir qui a la bonne lecture. Donc il y a une bataille sur la même religion pour savoir qui la détient et qui détient la vérité de cette religion entre les musulmans et les islamistes. Et la raison pour laquelle les islamistes considèrent les musulmans comme des mécréants au même titre que les autres. En revanche, ce qui est absolument absurde dans la phrase de Gabriel Attal, parce qu'il faut voir derrière la discussion qu'on a, pourquoi Gabriel Attal dit ça ? Parce qu'il faut toujours dire que c'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on a l'islamisme en face de nous, personne ne lui demandait de qualifier sur le terrain ni politique, ni idéologique, ni religieux, parce qu'à la fin, le vrai sujet, c'est qu'il tue tout ce qui ne leur ressemble pas. Donc voilà. On peut peut-être se concentrer là-dessus, déjà, pour commencer. On n'attend pas du Premier ministre français qu'il qualifie exactement religieusement ou situe l'islamisme ou pas, c'est pas son métier, déjà pour commencer. Et ensuite, si on croit, et c'est là où je dis, c'est simplement un réflexe sémantique de la part du Premier ministre, si on croit à la fin que l'islamisme a comme problème la République, alors on est complètement aux fraises. Hein. Il tue partout dans le monde, en monarchie, en république islamique.
Non, mais c'est un vrai... Moi, je dis, c'est invraisemblable. Mais, oui,
Non, et simplement, quand ils doivent nous définir, nous Français, et les raisons pour lesquelles ils nous tuent, ils parlent de chrétiens, point barre.
Donc ça se fait bien sur un terrain religieux. J'ai fait la rupture du jeûne hier soir, tard, à l'invitation de Hassan Chagoumi, que vous connaissez, l'imam. Oui. Il y avait tous les représentants des religions.
Monsieur Chagoumi, personne ne le reconnaît.
Il y avait Mme Pompivé qui était là. C'était un grand moment de voir tous ces représentants religieux.
Ça, ces grands moments.
Mais laissez-moi parler, Pascal.
Mais personne n'est dupe de ce que vous dites. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes à côté ?
Je crois que les
Monsieur Chalgoumi, hélas, les musulmans ne reconnaissent pas sa parole. Hélas.
Ils étaient là.
Les islamistes.
Ils étaient là. Ils étaient là. Il y avait la religion juive, orthodoxe, catholique.
Déconnecté, on est entre nous,
mais c'est quand même incroyable de ne pas pouvoir dire cela. Il y avait tous les représentants de la République.
Je vais dire.
J'aimerais bien que Philippe fasse une synthèse, hein, parce que là, je me sens un peu seul.
Mais parce que je connais vos. Hélas, elles ont des bonnes. Non, parce que c'est la pause.
Alors après.
Oui, bah oui. C'est pavé de bonnes intentions, toutes vos interventions. Je vous assure, c'est pavé de bonnes intentions. Je sais que ces paroles-là nous emmènent dans le mur.
Ouais. Et pourquoi ?
Je ne partage pas du tout votre avis.
Mais parce que ce que vous parlez de gens qui représentent personne.
Il faut combattre l'islamisme politique. Voilà.
Mais l'islamisme n'est pas...
La doctrine des frères musulmans, c'est déviant.
Georges, l'islam est politique.
Non.
C'est inhérent. Non.
Non.
Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a eu...
L'islam n'est pas... C'est pas inhérent.
Pas en France. L'islam doit rester une religion du domaine privé.
Mais voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? L'islam n'est pas... C'est inhérent à la politique.
Je pense qu'il y a vraiment...
Thomas Hill, là, il n'y a plus de discussion. Puisque c'est précisément un code politique.
Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a eu plusieurs pratiques de l'islam ?
S'il vous plaît, Philippe. Pardonnez-moi, mais je dois faire la discipline. J'ai beau me le répéter, ils comprennent pas que vous. C'est dur parfois le matin.
Ah, je vois ça. Bon.
Allez, on est en retard. On vous souhaite la bonne émission.
Bonne émission, Pascal.
Merci. Et je vous donne la parole. Je vous jure. Après, l'islam est une politique, comme d'ailleurs à un moment l'Église de Rome,
une religion,
était une et également. La discussion est vive. À tout de suite.
Bon, je vais aller chercher un café.
Soumaïa Labidi est avec nous. Bonjour Soumaïa, vous allez nous rappeler les titres.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un dérapage important pointe le président de la Cour des comptes. Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023, quand la dette s'établit à 110,6%. Toutefois, Bruno Le Maire réaffirme être, je cite, opposé à toute augmentation d'impôts. Nouvelle opération Place Nette après Lille et Roubaix hier. C'est au tour de la région parisienne, annonce de Gérald Darmanin sur X. Des opérations antidrogue qui se multiplient depuis la semaine dernière. Et puis des images spectaculaires. Un pont s'effondre à Baltimore aux États-Unis après avoir été heurté par un navire de marchandises. Un choc qui a eu raison des 2600 mètres de la structure métallique, comme vous pouvez le constater sur ces images.
Merci beaucoup Soumaïa. On termine ce sujet sur l'islam est-il politique ou non. Et je cite Nathalie Cricorian, que je cite régulièrement. La question n'est pas que l'islam soit politique, mais que dans les cultures et pays respectant cette religion, le politique n'est pas distingué du religieux.
Mais c'est tout à fait juste. C'était tout à fait juste, ça.
Bon, vous n'aviez terminé.
Non, mais je trouve que les discussions théologiques sont très intéressantes. Il y a juste un constat qu'on doit faire, qui est pragmatique, qui est que depuis la fin des années 70, il y a des mouvements fondamentalistes qu'on appelle islamistes, qui ont marqué des points dans le monde arabo-musulman. Et au-delà du monde arabe, dans le monde musulman de manière générale. Donc il y a eu l'islamisme de l'Iran, et puis il y a eu les frères musulmans, et puis il y a eu le salafisme, etc., etc. Ça, c'est un point incontestable où ils ont marqué des points. Ils ont pris du poids dans les sociétés musulmanes, on le constate, y compris dans des pays musulmans modérés, c'est une réalité. Ce qu'il faut bien voir en France, c'est que ça a progressé incontestablement. La question du voile, elle date depuis la fin des années 90 et elle n'a fait que s'aggraver. Là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une partie des musulmans qui ont intégré les traditions françaises et ont une pratique de leur religion qui n'est absolument pas contraire non seulement aux lois, mais aux mœurs de la France. Et donc qui est que la religion est une affaire privé, familial, amical. Et donc ça, il faut jamais l'oublier de le dire, parce que sinon, on empêche que un musulman puisse parfaitement s'intégrer dans la France.
Nous sommes d'accord.
Parce que la religion, elle évolue, les pratiques de la religion évoluent. Ça ne marche pas pour une partie de la population musulmane, mais ça marche pour une autre.
Mais on est totalement d'accord.
Moi, j'ai une question.
Un dernier mot et après, on passe.
Ouais, juste une petite question à Joseph.
Dernier mot.
Un individu, Sami Amimour, qui pénètre au Bataclan, qui fait 90 morts, qui est radicalisé, il commet un acte religieux ?
Pour lui, oui.
Non, mais oui. C'est à vous, Joseph, que je pose la question. C'est pas à Sami Amimour, il est mort. Pour vous, est-ce que c'est un acte religieux ?
Mais pour lui, oui, c'est la seule question.
C'est pas de la religion, c'est du terrorisme, on est bien d'accord.
Pour lui, oui.
Au nom d'une religion.
Ce qui est important, c'est que pour lui, oui. Juste une seconde, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. À un point qui est quand même un point essentiel. Tu parles des années 61. Je ne voudrais pas que l'on croie que l'islamisme est né d'un retour contre... une réponse à la décolonisation.
Non,
la colonisation.
Non,
j'ai jusqu'au bout. Non, pourquoi ? Parce que c'est un réveil de l'islamisme. C'est absolument un réveil de l'islamisme. Vous prenez les textes du 9e siècle ou du 10e siècle de l'islamisme et vous avez l'impression de lire mot pour mot les mêmes condamnations, les mêmes communiqués que Daesh, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des homosexuels, etc. C'est les mêmes. Ça n'a pas changé depuis des siècles.
Allez, on a terminé là-dessus. S'il vous plaît, un peu de discipline. J'ai cité Nathalie Krikorian. Je devrais dire Nathalie Krikorian Duronsois. Et c'est elle qui synthétise avec ce qu'elle m'envoie à l'instant. Il convient absolument de distinguer islam et islamisme, tout en comprenant que l'islamisme est, comme je l'ai expliqué il y a plus de 10 ans, que l'islamisme est une nouvelle idéologie dont la nature inédite et particulière est théologique. C'est la première idéologie qui est de cette nature particulière, fondée sur une religion millénaire. Voilà ce qu'elle dit.
Fini. C'est moins à nous de le faire que, en fait, les musulmans se définissent par la pratique et par leur lecture de l'islam, déterminent ce qu'il y a. Mais quand l'État islamique doit se nommer, il se nomme État islamique, pas islamiste.
Ah oui, tout à fait.
Gérald Darmanin, sur les attentats déjoués, il a parlé hier, et il y en a régulièrement, ce qui nous inquiète.
Et on voit que notamment, c'est pour ça que le président de la République a pris cette menace hier au Conseil de défense, que l'État islamique, qui est l'auteur des 8 derniers attentats déjoués en France, donc on voit bien que les 8 derniers attentats, c'est l'État islamique. L'État islamique a menacé beaucoup de pays européens, la France notamment. L'Allemagne a déjoué encore des attentats comme l'Autriche en décembre dernier. L'État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance, puisque ce qu'on comprend de l'attentat en Russie, d'après nos services de renseignement, c'est que des gens à l'extérieur, dans d'autres pays, ont pu donner des ordres à des gens à l'intérieur d'un pays pour passer à l'acte de manière coordonnée avec le massacre qu'on a vu.
Et évidemment, en ligne de mire arrivent les Jeux Olympiques, la sécurisation des JO. Est-ce qu'il faut... qu'il faut faire
Alain
cette
Bauer,
cérémonie.
Ce matin, qu'on était au plan Z.
Qu'est-ce qu'il disait ?
On était au plan Z, que ça serait le bon. Bah, que c'était une folie, la cérémonie d'ouverture.
Oui. Moi,
c'était une folie.
Pas.
Et qu'au début, les ministres, on se souvient d'Amélie Oudéa-Castéra, qui avait dit il n'y a pas de plan B. Puis Emmanuel Macron qui avait dit si, bah, évidemment, on a un plan B, voire un plan C.
Oui.
Et que là, donc, selon Alain Bauer, il faudrait mettre en place le plan Z.
Quelle sécurité pour le JO ? 30 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain chaque journée. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on va pas tout arrêter. C'est ce que je disais hier.
Réduit la jauge de...
Non, mais on va pas arrêter le 14 juillet, on va pas arrêter les fêtes de Bayonne, on va pas arrêter le Tour de France, on va pas arrêter...
Absolument.
Tout ça est en plein air. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a plus de risques que de la cérémonie d'ouverture que une étape du Tour de France?
Oui. Pour l'impact planétaire, oui.
Oui, pour ça, ça c'est entendu, mais autrement.
La question de la sécurité, Pascal a raison. On arrête tout à ce moment.
On arrête tout. On arrête toutes les manifs en plein air, les manifestations en plein air, et on ne fait que des choses sécurisées dans des stades. Mais
exactement.
C'est quand même très compliqué.
Si vous êtes en urgence attentat avec 10 000 forces sentinelles déployées partout. Vous prenez le risque de rassembler au bord de Seine 300 000 personnes.
Donc vous pensez par exemple qu'il faut l'annuler?
Ah mais moi j'y crois pas du tout. Je pense
c'est-à-dire que
elle n'aura pas lieu. Moi ça me semble invraisemblable.
Vous pensez qu'elle n'aura pas lieu?
Moi je pense, oui. C'est beaucoup trop de risques.
C'est triste.
C'est beaucoup trop de risques. Bien sûr qu'il ne faut pas arrêter.
Il n'y a pas de plan
juillet,
B, mais rien n'a été organisé. Ça s'organise.
Vous pensez qu'il n'y a pas de plan
dans,
B?
Dans le stade, il y a un plan B qui a été.
Je ne sais pas où, bien dans sûr. Quel stade, mais évidemment qu'il y a un plan B. Vous imaginez pas l'absence de plan B, c'est impossible.
Bon, Valérie Pécresse, hier, à l'occasion d'une conférence de presse, elle a fait le point sur la question des transports, de la sécurité ou encore l'héritage entourant les Jeux. Et manifestement, elle a dit
elle a appelé les Franciliens à marcher.
Elle a dit il ne faudra pas avoir peur de faire un peu de marche. Je vous jure, mais parfois, tu te dis, je ne sais pas qui les conseille. C'est bon pour la santé. En plus, ce côté moral et tout, c'est insupportable.
C'est ça qui est...
Et ce sera au mois d'août. Bon,
il fera chaud.
Madame Pécresse, je ne sais pas si elle sera à Paris au mois d'août pendant les Jeux. Sans compter qu'un tiers des visiteurs auront entre 25 et 35 ans. On espère qu'à cet âge-là, certains peuvent marcher. Je vous assure, j'en peux plus des hommes ou des femmes politiques. Je veux dire, je pense qu'ils devraient se taire, en fait, pendant un moment.
Voilà. Mais surtout le vrai problème.
Ils devraient se taire pendant un moment. Vous vous rendez compte, il ne faudra pas avoir peur de faire un peu de marche.
C'est sympathique, ça.
Mais j'ai pas besoin de Madame Pécresse pour savoir ce qui est bon pour ma santé. C'est pas ce que je lui demande.
Elle est responsable des transports à Paris.
Je lui demande de garder les services publics et le déficit. Bon,
elle est responsable de vos transports à Paris.
Ben justement, elle est pas responsable de ma santé.
Si vous marchez un peu
plus, ce serait que j'en ai assez de ce ton de nous prendre pour des enfants de 4 ans.
De Valérie Pécresse, marchez.
J'en ai ras le bol.
Marchez.
J'en ai marché.
Pas du bien.
C'est comme dans l'aveu. Marchez.
Non, mais c'est pas très méchant, effectivement.
Mais je vous dis pas que c'est méchant.
Quand il y a une station qui sera obstruée, il faut sortir à la station d'avant ou à la station d'après.
Merci.
La réalité, c'est que la station d'avant ou la station d'après sera aussi obstruée. Donc en fait, il ne faudra pas prendre le métro du tout, ni le RER. Voilà.
En marche. Ça va bien.
En marche.
Ça va bien. Arrêtons cette sinistrose sur les JO.
Bien sûr.
Non, mais franchement, on a l'impression qu'on se prépare il est possible une semaine. La dernière semaine de juillet.
Moi, je fais tout pour pas y être et j'y serai pas.
Non, mais vous êtes en vacances tout l'été, donc forcément.
Oui, évidemment, parce que je travaille tout l'hiver. Donc, évidemment, vous
serez à la boule. Vous auriez pris vos quartiers de villégiature.
Je croise Madame Pécresse de temps en temps à la boule. Mais vite un peu, mais bon, c'est pas grave.
C'est plus la présidentielle. Le débrief de son meeting.
Je passe par une autre porte. Bon, Moscou. Alors, qu'est-ce qui a frappé dans Moscou dans le traitement de cette info? Qu'est-ce que vous retenez d'abord?
C'est la faillite sécuritaire.
Oui.
Ouais. Avant ça, pour moi, les tortures.
Oui.
Ah oui.
C'est ça qui est sidérant. C'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire qu'on découvre un pays, a priori, dont on nous dit qu'il est démocratique.
On découvre ?
Oui,
oui, vous avez raison.
Il y a Navalny qui est...
Poutine, on ira jusque dans les chiottes, disait-il. Oui, on le savait très bien.
Les opposants qui tombent du balcon. Non,
oui, mais, là, ils ont été...
C'est civilisationnel, culturel.
C'est entendu, c'est des horribles, bien évidemment. Et c'est des terroristes qui méritent de rester...
C'est pire que le Salvador, vous avez vu.
Qui méritent de rester jusqu'à la fin de leur vie en prison. Mais vous découvrez effectivement ces tortures. Je crois que nous avons un sujet de Mathieu Devez qui relate cela.
C'est le visage couvert d'ecchymose avec un bandage sur l'oreille que ce suspect arrive dans la cage en verre réservée aux accusés. Sur les images diffusées par le tribunal, les trois autres assaillants présumés semblent également avoir subi des sévices physiques. L'un d'entre eux est inconscient dans une chaise roulante. Le Kremlin a refusé hier de commenter les allégations de torture des suspects. Mais dans sa communication, le pouvoir russe se montre intraitable. Le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, affiche son désir de vengeance.
Nous vengerons tout le monde. Et ceux qui sont impliqués, quel que soit leur pays d'origine et leur statut, constituent désormais notre cible principale et légitime. Tenez-vous prêts, salauds.
Selon le tribunal, deux des suspects ont déjà plaidé coupables. Accusés de terrorisme et placés en détention provisoire, les quatre hommes encourent la prison à perpétuité.
Bon, ils finiront pas leur jour en prison, à mon avis, ceux-là. Quand on voit dans bon,
ça fait du bien de vivre en démocratie, quand même. Hein.
Non, c'est une faillite sécuritaire. Pour Poutine, c'est quand même un camouflet extraordinaire. Il y avait eu déjà la faillite militaire. Vous vous souvenez, quand Prigogine montait sur Moscou, s'il n'avait pas fait demi-tour... C'est pas ce qui serait passé.
C'est là. Ça.
Comment?
Tu as raison de rappeler ça.
Ça m'a rappelé ça aussi. Absolument. Et là, aussi. Aujourd'hui, exactement. C'est la faille sécuritaire en plein Moscou, à un kilomètre des ministères.
Je ne sais pas si vous allez.
Restons sur les tortures, parce que ça.
Ah, c'est les tortures. Vous allez passer un extrait où Poutine parle des islamistes, j'imagine, peut-être.
Je pense, oui.
Peut-être, non.
Vous voulez qu'on l'écoute tout de suite?
Non, mais les tortures.
Mais les tortures, ça a frappé, évidemment, l'opinion publique.
C'est plus que frappé. Enfin, c'est profondément écœurant et choquant. On ne sait pas si il faut être prudent hein, sur les suspects qui ont été arrêtés. Il y a des spécialistes qui disent est-ce que c'est bien ceux-là qui ont donc il faut rester prudent.
De quoi? Spécialiste des mecs
du terrorisme, Charlotte.
Oui, d'accord, mais bon, personne ne peut rien en savoir.
Vous parlez des spécialistes en plateau qui, vendredi soir, écoutez sur les chaînes de télévision, parlent.
Non, mais là, en l'occurrence.
Pas tout le monde, hein. Sur CNews, on ne disait pas ça. Hein.
Oui, non, c'était remarquable sur CNews, avec Lionel Rousseau qui a été remarquable.
On n'est pas du tout parti sur les mauvaises pistes. Hein.
Je suis tout à fait d'accord.
Et il y avait un expert dont le nom m'échappe qui était remarquable.
Remarquable.
Et qui a dit tout de suite, c'est quelque chose de l'État islamique.
Parfaitement d'accord avec vous.
Enfin, c'est l'hypothèse. Pardon. Mais la torture, c'est une honte. Alors, je sais bien qu'il y a eu Guantanamo chez les Américains. Donc, mais et c'est la France, c'était un peu non, plus moi, dans le passé.
Il y a le fameux livre d'Henri Alleg, La question.
Bien sûr, pendant la guerre d'Algérie, mais enfin de sinistre mémoire. Donc, mais ça veut dire une faillite sécuritaire et un pouvoir autoritaire qui exhibe,
c'est ça,
qui exhibe les maltraitances qu'il commet. Moi, je suis fier de vivre dans une démocratie avec tous ses défauts.
Je partage votre avis.
Avec tous ses défauts. Et
là, je partage votre avis.
Mais là, je me dis, je suis content de vivre en Europe.
Vous avez parfaitement raison. C'est un point positif sur la France d'aujourd'hui. C'est important de le dire à 9h40.
Oui, il y en a.
Exactement. Vous avez parfaitement raison.
Alors moi,
bravo.
Je suis absolument d'accord sur la torture. En effet, évidemment, les États-Unis le pratiquent. En fait, c'est nous l'exception. Mm. Et on peut en être fiers, évidemment, de ne pas réagir. Ouais. L'exhibition a deux intérêts pour les pays qui la pratiquent. C'est évidemment, un, la vengeance vis-à-vis des victimes. Et deux, le fait de, comment dire... Dissuasion, qui à mon avis ne fonctionne pas en l'occurrence avec les gens qui
avec sont des terroristes en cause. Islamistes.
Simplement, il ne faudrait pas non plus que la torture qu'ils ont subie remplace celle qu'ont subie les victimes absolument innocentes du crocus. Quoi.
Absolument.
C'est juste ça.
Et pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, écoutons-le.
Merci à toi. Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Bien entendu, il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas?
C'est vrai que
la première fois qu'il cite
l'islam. Oui, c'est pour ça que
la position était intenable.
Mais il cible encore les Ukrainiens.
Oui,
il aurait, selon lui, ouvert un passage pour la fuite des islamistes.
Joseph Massescaron.
Alors cette intervention, c'est ce que dit d'ailleurs aussi bien Alain Boer que Jean-François Colosimo, cette intervention était attendue. C'est-à-dire, il était attendu que Poutine reconnaisse en effet que c'était des islamistes. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Poutine, le fait que ces islamistes-là, entre guillemets, se rendaient en Ukraine, légitime l'idée, la potentialité qu'il doit plus intervenir en Ukraine. De la même manière, il faut bien comprendre le schéma, que les États-Unis sont intervenus en Afghanistan ou que Israël est intervenu à Gaza. Je vous fiche mon billet que nous allons avoir ce type d'argumentation dans les heures ou même les jours qui viennent.
En fait,
totalement.
C'est une instrumentalisation.
Totalement, totalement. Donc, ne soyons pas dupes. C'est-à-dire, ne disons pas, il reconnaît qu'il y a des islamistes. Formidable, il reconnaît qu'il y a des islamistes. Non, il faut avoir les deux parties. Il reconnaît que ce sont des islamistes qui se rendaient en Ukraine, et donc qui sont les commanditaires? Pour lui, c'est des commanditaires ukrainiens, et donc il est légitime pour Poutine de continuer de frapper même les populations civiles en Ukraine.
Et l'Ukraine, c'est exactement la même accusation, c'est deux pays en guerre. Quoi.
Voilà.
Et il ne cite pas l'État islamique.
Puisque vous avez parlé d'ailleurs de Gaza et d'Israël, j'avais prévu d'en parler peut-être plus tard, et je le dis pour Marine Lançon, mais on peut rappeler la position de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat, le vote hier d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant pour la première fois un cessez-le-feu avec l'abstention notable des États-Unis.
Oui. C'est ça qui est la première fois que les États-Unis lâchent un petit peu.
Voilà, a été conspué par Israël, mais largement salué de Madrid à Pretoria. Alors, ce qui est vrai, c'est que a priori, c'est conditionné ce cessez-le-feu, si j'ai bien compris, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. C'est quand même la deuxième phrase qui me paraît la plus importante. Au moins aussi importante. Elle doit être pleinement mise en œuvre. On était hier avec notre ami Gilles-William Colnanel qui rappelait que sur France Inter, on ne citait que la première phrase.
C'est dommage.
Que la première partie de la phrase. Mais je lis la déclaration de l'ONU. S'il n'y a pas libération des otages, il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous sommes d'accord.
Vous êtes le seul à le préciser. Moi, je ne l'ai pas entendu nulle part. C'est bien de le dire.
Mais c'est extraordinaire. Vous l'avez entendu nulle part parce que vous ne nous avez pas écouté hier soir.
Non, mais nulle part ailleurs qu'à CNews.
Ça ne fâcherait pas le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est très fâché contre l'abstention des États-Unis et qui a annulé la visite d'une délégation. Donc c'est bien.
Mais enfin, Antonio Guterres, c'est clair, le Conseil de sécurité vient d'approuver une résolution très attendue sur Gaza, exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération immédiate et inconditionnelle. Donc s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre.
C'est ça le sens profond. C'est ça qui a du sens.
C'est pas comme ça que le comprend Benjamin Netanyahu.
Cessez-le-feu. On ne peut pas demander à Israël un cessez-le-feu s'il n'y a pas de libération des otages.
C'est pas comme ça que perçoit le gouvernement israélien.
Bon, c'était important de le dire, mais la position américaine...
Le ton est monté entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou au téléphone dimanche soir. Pour la première fois, Emmanuel Macron a mis en garde le Premier ministre israélien, je cite, « contre des crimes de guerre commis à Rafah », s'il y a une offensive sur Rafah. Côté, évidemment,
moi, je vous pose la question, le cessez-le-feu avec qui?
Avec le Hamas.
Le Hamas, c'est qui?
Un groupe terroriste.
Voilà. Est-ce qu'on fait un cessez-le-feu avec un groupe terroriste?
C'est toute la question.
Ah oui, c'est toute la question. Mais
la question, moi, j'ai la réponse.
À ce moment-là,
on a fait le cessez-le-feu avec l'État islamique en Irak et en Syrie.
Non. Si le Hamas.
On a défait l'État territorial.
Si le Hamas ne respecte pas le cessez-le-feu, si d'aventure il y a un cessez-le-feu qui est signé, tout simplement, tu reprends les hostilités.
Peut-être que le terme trêve est plus adéquat que le terme cessez-le-feu.
Mais il y a chaque jour, je le rappelle, il faut le dire, on l'a dit avec Bernard Olivier hier, tous les jours, il y a un couloir humanitaire pour proposer aux Gazaouis de quitter. La région.
Oui, alors c'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué. Les Égyptiens. Moi, je reviens d'Égypte. Je peux vous dire que les Égyptiens, ils veulent pas des Gazaouis. Ouais. Donc c'est très compliqué le couloir humanitaire. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il arrive la fin du couloir.
Frontière, effectivement. Sur la libération des otages. Vous imaginez, la torture psychologique des familles des otages avec ces otages qui sont libérés au compte-goutte d'une manière sadique par le Hamas. Vous imaginez cette torture, cette attente. Est-ce qu'ils vont être là? Est-ce que leurs fils, leurs frères, leurs sœurs vont être là à chaque fois?
Bien sûr. On va marquer une pause et on parlera évidemment de toutes les actualités. Alors, il y a des choses extraordinaires en France. Il y a des combats de rue maintenant en pleine nuit à Brest.
Ouais.
D'ailleurs, je peux peut-être voir l'image, mais allez, avant de la pause. Alors, c'est extraordinaire. Les policiers disent on ne peut pas intervenir. Ils sont 200 à se battre en pleine nuit. Combat de rue, c'est une sorte de tiers-mondisation de la France. C'est quand même très, très étrange de voir des choses comme ça. On pourra revenir évidemment sur l'affaire France Inter. Regardez, ça se passe à Brest, en pleine nuit. Alors, il y a les policiers qui disent mais comment voulez-vous qu'on fasse à Brest? Voilà, et puis il y a des gens autour. Voilà, des combats de rue qui sont organisés, tout ça. Ce pays est étrange et on pourra revenir évidemment sur France Inter avec l'affaire Akili. Et puis on a appris hier qu'à France Inter, il y a des journalistes qui financent le terrorisme. Tout ça est effectivement. Et surtout, c'est comment dire. Ah oui, mais ils avaient la carte, la super carte, la carte gold. Ils avaient travaillé à Mediapart. Tout va bien.
Elle est plutôt rouge.
Bon, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Écoutez ce poste extraordinaire sur France Culture où M. Edoui Plenel, qui prend sa retraite de Mediapart, le journaliste de France Culture, lui dit « Mais comment le journalisme va pouvoir survivre au départ de l'homme qui a écrit ce qu'il a écrit ?» Demandez à Dominique Baudis ce qu'il en pense.
Ou à Pierre Mauroy dans un article célèbre du Monde.
Voilà, Edoui Plenel. Et alors, à France Culture, il est reçu en majesté. Personne ne lui rappelle les reportages qu'il a pu faire, qui pour le moins peuvent poser problème.
Parce que c'est l'icône du journalisme d'investigation.
C'est notre Tartuffe national. Voilà. Comme chacun sait.
Donc, le guide pour sauver votre retraite, Marc Fiorentino. Ah. Quel que soit votre âge, des solutions existent. Vous avez plusieurs retraites, donc c'était formidable. Vous en avez 4-5, c'est ça?
Oh, les attaques personnelles.
Je ne connaisse pas.
C'est honte.
Ça veut dire que j'ai travaillé toute ma vie.
Ah bah, il y a plein de temps qu'on travaillait comme ça. Ils ont 800 euros.
Comme j'ai fait différentes choses, je dépends de différentes caisses.
Mais voilà, surtout, Georges, vous continuez. Vous continuez, puis vous faites 20 ans de moins, en plus.
Ouais, c'est vrai que vous êtes jeune et beau, toujours.
Merci, bon, Pascal.
Pour sauver votre retraite, et puis on devait avoir Pierre Douglas sur notre plateau, mais je ne sais pas s'il est là ou pas. Il est bloqué dans les embouteillages, je me dis.
Ah, bah tiens, c'est le moment Hidalgo.
Ça, c'est le moment Hidalgo. Ah, bah oui, c'est-à-dire qu'il faut venir avant 5 heures si tu as un rendez-vous du matin. Et après, t'as un espace. Ah bah
moi, j'arrive avant 5 heures.
Valérie Pécresse, il faut marcher.
Ah, il faut marcher. Écoutez, Valérie, marchez. Enfin, bon. Donc, vous restez encore quelques secondes, mais vous laisserez autrement. Voilà, vous laisserez votre place. À tout de suite. Je remercie Gauthier Lebret qui était avec nous, qui nous a quittés, puisque Pierre Douglas est arrivé, il est 10h01, Pierre Douglas qui est en retard. Vous venez d'où, Pierre Douglas? Parce qu'on est dans le 15e arrondissement.
Je viens de Champigny, où est enterré Georges Marchais.
Oui. D'accord, donc Champigny, c'est à 20 km d'ici.
Voilà, à peu près.
Bon, vous avez mis combien de temps pour venir jusqu'à nous, ce qui fait que vous êtes en retard?
1h50.
Oh, 1h50, en taxi?
En taxi.
Donc ça, c'est la
moi
réalité.
Moi qui fais du vélo, il n'aurait pas fait ce temps-là, je prenais mon vélo, j'étais à l'heure.
Mais même à pied, vous veniez peut-être 20 minutes. Bon, c'est-à-dire que les gens qui sont partis de Nantes ce matin sont peut-être arrivés plus rapidement avec le TGV que vous qui venez de Champigny. 1h50, c'est la réalité des embouteillages, Paris, qui est une ville. Non mais c'est folle, je le dis tous les matins, c'est l'instant Hidalgo, mais c'est quand même extraordinaire, 1h50. Merci d'être avec nous parce que c'est la journée mondiale de la bipolarité, vendredi, et vous nous parlerez, vous avez souhaité évoquer cela. Et puis Marc Fiorentino, le guide pour sauver notre retraite. Alors ça, c'est un sujet absolument passionnant parce que vous écrivez « La situation sur les retraites est si grave que les trois principales agences de notation ont ensemble émis une alerte générale en 2023 ». C'est-à-dire qu'en clair, Gauthier Lebret qui nous a quittés il y a quelques secondes, il a 28 ans.
Non, lui, c'est mort.
Non.
Lui en particulier. Mais...
Il n'aura pas de retraite.
Non, en fait, on va avoir une indemnité retraite. On va revenir au système originel de la retraite. Le système originel de la retraite, je le rappelle en deux minutes, c'est qu'on avait 65 ans. C'était l'espérance de vie, c'était 65 ans. Et on a créé une retraite à 65 ans pour les rares personnes qui dépassaient les 65 ans, pour les aider à vivre. Puis on a transformé ça en système de compensation du dernier revenu et qui est un système qui ne peut plus fonctionner quand le temps de vie à la retraite est passé maintenant de 25 à 30 ans. Et donc il faut financer 30 ans d'inactivité par de moins en moins d'actifs, puisque la démographie, vous la connaissez, il y a de moins en moins de naissances, donc il y a de moins en moins d'actifs. Donc c'est juste totalement impossible.
Dans certains métiers, on finance aussi 30 ans d'inactivité. Oui. mais cette fois-ci...
Le SIG, par exemple.
Comment ?
Le SIG.
Ah bah, vos amis du SIG. Somaya, c'est à vous pour le rappel des titres. Somaya Labidi.
Bien plus utile que les...
Les prisons n'y échappent pas. Des opérations PlaceNet XXL menées en détention. Au cœur de ces opérations, les prisons des Baumettes et de Salon de Provence. Un an après, plusieurs manifestations non déclarées, dont une aujourd'hui à Périgueux. Le 25 mars 2023, des milliers de manifestants se rassemblaient sur le site de Sainte-Soline pour protester contre la création de méga-bassines. Rassemblement émaillé à l'époque de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis, il persiste et signe. Vladimir Poutine admet pour la première fois, je cite, une attaque islamiste, mais pointe encore du doigt Kiev. Kiev et les Occidentaux qui démentent toute relation entre les autorités ukrainiennes et les auteurs de cette attaque.
Merci beaucoup, Somaya. Si vous étiez dans la matinale ce matin avec Romain Desarbres, qui réussit d'ailleurs des performances formidable en ce moment durant cette matinale, c'est le 6-9 de CNews. Si vous étiez avec nous, vous avez peut-être écouté le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui a dénoncé l'arrivée de migrants dans sa ville. Les migrants seraient selon lui déplacés en province en catimini pour faire place nette à Paris avant les Jeux Olympiques d'été. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris, a dit Serge Grouard. Je vous propose de l'écouter.
Les migrants ne sont pas proposés, on ne leur propose pas des hébergements d'urgence, comme il peut en exister régulièrement. On a à peu près 1000 places hein, au total, mais c'est saturé. Donc que se passe-t-il? Bah, ils sont logés provisoirement dans des chambres d'hôtel. Et cela, ils y restent à peu près 3 semaines. Ensuite, que se passe-t-il? On a le plus grand mal à reconstituer les choses. Certains d'entre eux rentrent probablement sur Paris. Donc vous voyez le truc absolument absurde. D'autres s'égayent dans la nature, certains se peut-être en CRA, en centre de rétention administratif. Voilà, en tout cas, ce n'est pas géré. Nous n'avons pas les moyens de le faire et l'État se défausse de ses responsabilités sur nous.
Je trouve que les Jeux Olympiques, d'une certaine manière, sont un scanner de la France.
L'impression d'une grande punition.
Ben oui, parce que ça, c'est un scanner de la France. C'est-à-dire que vous pouvez prendre dans tous les domaines des informations qui nous arrivent.
Ah, mais surtout, vous êtes ironique, mais en fait, 500 personnes...
Ah non, je ne suis pas ironique.
Ah bon,
c'est... Non. C'est... Les Jeux Olympiques se transforment en grande punition. On vient d'évoquer les problèmes de circulation qui ont un lien avec les Jeux Olympiques. Et effectivement, dans tous les
domaines... C'est un scanner.
Dans tous les domaines, on a l'impression que les Jeux Olympiques, c'est la punition. Hein.
Mais parce que ça révèle. C'est pas, en fait... Non, mais c'est pas la punition, justement. C'est que ça révèle ce que nous sommes. Ça révèle.
Non, mais c'est
marrant, c'est que le maire de Paris nous explique régulièrement à quel point c'est formidable d'accueillir et que ça nous enrichit tous. Et puis au moment où on accueille le monde entier, il faut absolument cacher ça. Je comprends pas, moi. J'ai du mal à comprendre les deux assertions en même temps.
C'est pour ça.
Sans doute. Ou alors j'ai une intelligence trop simple, je sais pas, mais j'ai du mal à comprendre.
Oui. Autre séquence, ces combats de rue que vous avez vus. Alors ça, les combats de rue, c'est à Brest, je le disais tout à l'heure, mais des combats de rue à Brest, deux soirs de suite, des combats de rue visiblement organisés ont eu lieu à Place de l'Église. Les policiers ont voulu intervenir, mais ils ont été très vite pris à partie par une soixantaine d'individus. On va écouter Josigue Alençon, qui représente le syndicat Alliance, mais je vous assure, j'ai grandi dans une France... où évidemment il n'y avait pas ce genre de choses.
Non.
De quelque côté qu'on se tourne, vous avez des combats de rue dans la France. Ça s'appelle la tiers-mondisation du pays, mais dans tous les domaines. Après, on va dire, oui, tous les jours, vous mettez l'accent sur des choses comme ça. Ça n'existait pas. Enfin, c'est des choses qui me paraissent complètement folles. Écoutez M. Josigue Alençon du syndicat Alliance qui dit qu'il est impossible d'intervenir.
On n'a pas pu procéder aux interpellations parce qu'en fait ils étaient beaucoup trop nombreux et ils sont arrivés sur nous une soixantaine. Comme je vous dis, ils étaient bien échauffés déjà de leur manifestation, de leur tradition là, qu'ils ont à se battre. Pour nous c'était pas possible. Si on voulait interpeller, on était obligé d'engager d'autres moyens. Maintenant, c'était un risque de faire des blessés plutôt qu'autre chose. J'ose espérer quand même effectivement qu'on aura un renfort d'effectifs parce que on peut pas gérer ça une douzaine et à un moment donné il va falloir faire cesser les infractions. On ne fait pas le poids face à 250 personnes. Et bon, encore dans ces 250 personnes, vous en prenez une soixantaine au minimum qui veut en découdre. Vous ne faites pas le poids, quoi. C'est le résultat d'un manque d'effectifs qui dure depuis des années, en fait. On aurait les effectifs, on n'aurait pas ce... Je pense qu'on aurait pu, en fin de compte, mettre fin à cette manifestation illégale, en fait. Le résultat de leur manifestation, c'est que ça a généré des violences urbaines derrière. Donc, effectivement, il faut... J'ose espérer quand même que la réponse sera sévère par rapport à ces gens-là.
Vous ne verrez pas évidemment un sujet sur TF1 ou sur France 2 là-dessus. Bon. Ça, c'est un fait divers ou c'est un fait de société? Je vous pose la question.
Société. Là, on se rapproche du fait de société. Et si ça se répète, si ça se répète, c'est un fait de société.
Et alors, pourquoi on est les seuls à en parler?
Parce qu'on est la chaîne qui parle des vrais sujets.
Bravo, wow. Il a hésité. Il a dit. Non, mais c'est intéressant.
Vous savez qu'Alain Bauer a un chiffre très intéressant sur l'organisation du travail de la police. Il dit 40% des effectifs sont présents sur le terrain au moment où il y a 4% des faits criminels et délictueux. Et que quand il y a 40% des faits criminels et délictueux, c'est-à-dire en particulier la nuit, il n'y a que 4% des effectifs de la police qui sont sur le terrain.
Là, le sujet, c'est pas ça.
Non, mais ça, c'est pas le sujet. Mais pourquoi il n'y a que nous qui en parlons?
Il n'y a pas d'effectifs. Le policier nous a raconté.
Oui, mais
ils n'étaient pas assez nombreux.
Excusez-moi, vous voyez la vidéo comme moi, vous voyez les visages, il est possible de les interpeller derrière, d'avoir une réponse pénale quand même. La question de l'intervention au moment M où il vous dit ça risque de faire plus de blessés, vous mettez 200 policiers, ça risque aussi de faire plus de blessés et des émeutes derrière. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir, est-ce que l'autorité publique va se saisir de ces vidéos, rechercher les auteurs et les punir pour éviter que ça recommence.
Mais vous n'avez pas les effectifs.
Mais vous n'aurez jamais assez d'effectifs pour contrer tous les gens qui font n'importe quoi dans les rues, en fait. C'est l'engrenage d'organisation.
Enfin, Bauer.
Mais vous voulez un pays où il y a un flic par mètre carré la nuit, en fait.
Mais non, mais l'important, c'est d'avoir les effectifs là au moment où se passent les choses.
Pas, si vous me permettez, c'est pas le sujet.
Mais ça se devine pas à l'avance.
C'est pas le sujet. Il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment que ça existe. Il y a le fait. Et le sujet, c'est que personne n'en parle.
Ce qui est quand même
oui, d'accord.
Ben c'est pas d'accord, c'est pas rien quand même.
Non, non.
C'est... Et je vous ai posé la question, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas?
Ils ne savent pas par quel bout prendre cette.
Et voilà, parce qu'en fait.
Exactement. Des bagarres à point nu, si je comprends.
Ah, c'est oui.
Il y en a d'autres, c'est avec des armes blanches, de la Kalachnikov, c'est encore autre chose.
Oui, mais là, ils ne se battent pas, ce n'est pas des combats de rue. Là, c'est un combat de rue organisé, vous avez bien compris. C'est pas.
Donc, il n'y aura pas de plainte.
Bon, personne ne parle de beaucoup de sujets. Hein. On a vu tout à l'heure la dette. On pourrait prendre la crise du logement qui est une catastrophe dont personne ne parle, même pas les politiques. Donc franchement,
vous voulez une critique des
liste, elle est longue.
Bref, ça m'arrive de jeter un coup d'œil aux personnes sont devenues des documentaires. Oui. Ils ne traitent pas des sujets d'actualité.
Brest, Nantes, Rennes, c'est du magazine. Bon, Brest, Nantes, Rennes, c'est pas de l'actu. Brest, Nantes, Rennes, ces trois villes sont effectivement soumises à un type de comportement ou de violence nouvelle. Autre sujet avant d'être avec nos invités, terrorisme, c'est la justice qui condamne ces deux journalistes. Ça, c'est encore autre chose. À France Inter, maintenant, on recrute des journalistes qui sont condamnés pour terrorisme.
Qui n'étaient pas encore condamnés quand même, mais...
Oui, mais...
Ils étaient recrutés, mais ils étaient déjà...
Sauf que les informations, on avait dit à la direction de France Inter, ils étaient prévenus. Donc, vous imaginez le deux poids, deux mesures. Si, par exemple, ces gens-là étaient liés de près...
n'est pas condamné non plus.
Voilà, si ces gens-là étaient prêts de lier ou... De près ou de loin à des mouvements extrémistes de droite.
Il n'y a pas besoin de déjeuner avec Jordan Bardella, apparemment ça suffit. Donc.
Exactement. Bon. Donc voyons le sujet de Michael Dos Santos, c'est absolument sidérant, comme il est sidérant, comment est traité l'affaire Akili, qui veulent virer, si tu voulez, et qui instrumentalise le monde en donnant des fausses informations au monde. Madame Chemin se fait manipuler par la direction de France Inter, quoi, de France Info en l'occurrence. Voyons le sujet de Monsieur Dos Santos.
Lors de la rédaction d'un livre enquête publié en 2018, Edith Bouvier, ancienne journaliste de Radio France et Libération, et Céline Martelet, actuelle collaboratrice de Mediapart, sont soupçonnées d'avoir payé des passeurs en Syrie et en Irak. Des transferts d'argent dont l'objectif était d'exfiltrer des Français pour qu'ils regagnent l'Hexagone afin de se rendre aux autorités. Parmi eux, des femmes et des enfants de djihadistes, mais aussi Maximilien Thibault, un ancien combattant de Daesh, mort depuis au combat et qui avait maintenu des contacts avec le terroriste de l'attentat du pont Bir Hakeim. Au tribunal, les deux femmes ont admis être sorties de leur cadre, avoir agi par humanité pour sauver des vies. Aujourd'hui, leur condamnation leur semble sévère.
Il existe décidément un gouffre entre la réalité du terrain et ce que la justice croit pouvoir faire. Nous n'avons jamais financé le terrorisme, nous le combattons chaque jour dans nos professions.
Pour avoir fait appel de la décision, les deux journalistes restent à ce stade présumés innocentes.
Et Info Bordeaux hier communiquait cette information. La journaliste de Mediapart Céline Martelet a été condamnée à 12 mois de prison pour financement du terrorisme. En septembre dernier, elle animait une table ronde à Bordeaux pour soutenir l'association SOS Méditerranée en présence du maire Pierre Urmic. Alors d'abord, elle a le droit. Bien évidemment, mais ça montre simplement la sensibilité de cette dame et du journalisme tel qu'il est pratiqué à France Inter, ni plus ni moins.
12 mois avec sursis, c'est pas
faux. Oui, 12 mois d'emprisonnement, oui. Non, mais ça montre, il suffit d'écouter France Inter, mais quand on te parle de neutralité, je rappelle que France Inter, c'est le service public. Tu pourrais exiger une neutralité. Eh bien non, évidemment. Et l'affaire Akili montre ça également, c'est-à-dire que le service public...
Juste une petite chose, parce qu'il y a l'argumentation qui consiste à dire que c'est pour des raisons humanitaires.
Oui.
Bien. Il y a eu une très grande entreprise française, je ne vais pas donner son nom, vous vous souvenez.
Lafarge.
Lafarge, merci. Qui a eu, mais qui a été traînée évidemment dans la boue parce qu'elle se trouvait en Syrie. Et justement, il se trouvait que cette entreprise Lafarge s'est maintenue pour des raisons humanitaires par rapport à ses salariés. Et ça, évidemment, c'était l'horreur absolue. Hein, Georges, tu t'en souviens?
Oui,
l'horreur absolue. Ça. Et là, franchement, on voit les mêmes la même famille journalistique qui condamnait Lafarge et qui traînait cette grande entreprise française dans la boue.
Se livrait la même chose.
Et voilà, exactement sortir la même chose.
C'est très personnel sur des.
Et le Monde hier, Jean-François Killy a admis devant sa hiérarchie avoir joué un rôle dans Jordan, le livre de Bardella. C'est absolument faux. Il a jamais admis ça. Jamais admis ça. Le Monde, on n'est pas à écrire des énormités là. Évidemment, c'est matin, midi et soir,
c'est,
quasiment.
C'est gros quand même. Hein.
C'est gros.
Oui, c'est très très gros.
Mais il suffit de voir ce qu'ils écrivent. Pardonnez-moi sur CNews et sur certains dirigeants de notre chaîne pour savoir qu'effectivement, ces gens sont sans foi ni loi.
C'était
100 fois Nîmes-Loire. Ils ne vérifient rien du tout.
Ils ont pris comme argent comptant ce que leur disaient les gens de la direction
Exactement.
De France Info qui veulent virer Jean-François.
Exactement. Qui... C'est-à-dire qu'il y a un directeur de l'info qui appelle... Qui... Ces gens sont en collusion avec le monde. Ils s'appellent, ils sont entre eux, on fait virer quelqu'un, etc. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment lamentable. J'ai dit hier soir que c'était une honte, mais... Et en plus, ces gens, je les connais, j'ai travaillé avec eux. Franchement, ils me font honte. Pierre Douglas.
Mon cher Pascal.
La bipolarité. Pourquoi vous vous engagez... Alors, on vous avait reçu il y a un mois, à peu près. D'abord, ça nous a fait plaisir. Oui.
De vous revoir, parce que c'est important.
Georges Marchais.
Bien évidemment, vous êtes le Georges. D'abord, vous n'avez pas changé.
Il me pique mes sources.
D'abord, vous n'avez pas changé. C'est sidérant, parce que je peux dire votre nom ou pas?
Votre nom. Votre âge.
Oui, vous êtes... j'aurai 83 ans au mois d'août. Oui. Enfin,
ouais. Ça pour les retraités, c'est bon.
Et 82 ans, 3 quarts.
Vous buvez pas, vous fumez pas, et vous faites du sport.
Oui.
Et regardez, vous êtes dans une forme exceptionnelle. Bon. Et le 29 mars, il y a la journée de la bipolarité, vous m'avez alerté. Et je vous ai dit oui, bien sûr. Pourquoi êtes-vous intéressé par cette... comment je dis, c'est une maladie ?
Alors, de la définition. Je ne vous remercierai jamais assez, Pascal, de m'avoir invité pour parler de ça. Pourquoi ? Parce que j'ai trois fils et mon fils aîné, qui a 56 ans, souffre de troubles bipolaires depuis 35 ans à peu près. Il a été diagnostiqué assez tard et avant qu'il soit diagnostiqué, la vie a été très difficile pour lui d'abord et pour ses parents aussi. Depuis qu'il a accepté d'être soigné au lithium, depuis 4 ans, il va beaucoup mieux. Je ne dis pas que tous les personnes qui souffrent de troubles bipolaires doivent prendre du lithium, parce qu'il y a les effets secondaires, mais pour lui, c'est une réussite formidable. Il faut bien savoir une chose, c'est que cette maladie, qui a deux phases essentielles, la phase dépressive et la phase maniaque, La phase maniaque, c'est qu'on se croit le roi du monde, on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on peut tout réussir, tout va bien, c'est complètement excessif. Et la phase dépressive peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Il y a en France un peu plus de 2 millions de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et si vous voulez considérer, Pascal, que chaque personne est entourée, entre guillemets, de 2 ou 3 autres personnes, ça fait 10 millions de Français qui sont concernés par la bipolarité. C'est-à-dire qu'un Français sur 7 est concerné par la bipolarité.
Mais j'imagine qu'il y a une échelle de la bipolarité. Il y a de 1 à 10, j'imagine.
C'est peut-être beaucoup dire de 1 à 10, mais il y a effectivement des comment dirais-je, mon fils aîné n'a jamais été tenté par la tentative de suicide. Jamais.
Est-ce qu'il travaille, votre fils aîné ?
Il n'a jamais pu travailler. Il n'a jamais pu travailler. Il a essayé de travailler sur des chantiers, par exemple. Au bout de 2 heures, il fallait qu'il s'en aille. Ça fait partie.
Et il vit où aujourd'hui ?
Alors, il vit à La Rochelle. Il est divorcé. Il a 2 enfants qui vont très bien. Ma petite fille a 26 ans et mon petit garçon a 21 ans. Ils se sont bien protégés tout en aimant leurs parents. Et ça, c'est une réussite assez formidable. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a un mot qui est fondamental dans l'évolution du trouble bipolaire, c'est la réhabilitation. On peut. Cette maladie aujourd'hui ne se soigne pas, elle ne se guérit pas, mais elle se soigne. On peut être réhabilité, on peut vivre à peu près normalement. Et la 10e journée mondiale de vendredi prochain, qui entre parenthèses aura lieu à Levallois-Perret toute la journée et que j'animerai, eh bien, elle sera réservée le matin aux témoignages et l'après-midi à ceux qui peuvent apporter des solutions, notamment les chefs d'entreprise qui sont prêts à accueillir des gens qui souffrent de troubles bipolaires. C'est pas évident.
La solution, elle est chimique, si je comprends bien. Il ne sert à rien d'aller chez un psychiatre, de parler de son enfance, que sais-je, de ses souffrances, de ses blessures. On est d'accord que la réponse est d'abord chimique.
La réponse est d'abord chimique, vous avez tout à fait raison, mais il y a un certain nombre de malades qui souffrent de troubles bipolaires qui ont besoin, et ça leur apporte beaucoup, de consulter des psychiatres. C'est ce que mon fils fait de temps en temps. Il me dit, je suis allé voir mon psychiatre, ça va mieux. Bon, c'est le but de l'opération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des progrès qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Mais alors comment ?
Eh bien, en parlant. Bon, donc, mille merci. La journée mondiale, on va beaucoup en parler vendredi. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut arrêter de stigmatiser. Il faut arrêter de dire, oh là là, celui-là, il est bipolaire, il est cinglé, il dit n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. On ne dit pas de quelqu'un qu'il est cancer. Pourquoi est-ce qu'on dirait de quelqu'un qu'il est
bipolaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il souffre de troubles bipolaires. Oui,
et puis
c'est
alors,
pas
ce
la
sont
même
des
chose.
Termes parfois qui sont passés dans le langage commun, mais oui. Par exemple, on dit que quelqu'un il est schizo, il est parano, et oui. Ça ne correspond pas à la réalité, au diagnostic médical.
Mais bien sûr,
là, on est vraiment sur un diagnostic médical posé bipolaire. On disait dans le temps maniaco-dépressif.
Oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, on ne dit plus maniaco-dépressif.
Non. Alors. Bon.
Écoutez, vous en parlez avec beaucoup d'émotion, en tout cas, et j'imagine...
Oui, parce que je suis touché personnellement.
Bien sûr. Et qu'il y a une vie à assurer sur le plan financier pour votre fils. S'il n'a jamais travaillé, comment a-t-il fait?
Eh bien, il est au RSA, et puis papa et maman, c'est le métier de parent, eh bien, on comble ce qui manque. Voilà.
Bah écoutez, vendredi, c'est important de mettre l'accent. Combien de personnes, vous avez dit 2 millions?
Il y a à peu près 2 millions de Français qui souffrent vraiment, qui sont malades de la bipolarité.
Et alors sur ces 2 millions, on sait combien travaillent ou combien ne travaillent pas?
Alors je ne sais pas quel est le pourcentage de ceux qui travaillent. Il y en a heureusement beaucoup. Je pense que c'est plus de la moitié qui parviennent à travailler. Oui. Mais on recevra aussi des chefs d'entreprise qui sont prêts à accueillir des malades qui souffrent de bipolarité et même qui en ont déjà accueilli. Mais il faut aider aussi ceux qui sont gênés de le dire. Il faut leur, vous pouvez vous répéter.
Comment on le diagnostique? Ce matin, Brigitte Millot parlait d'un test nouveau chez Romain Desarmes. Il y a manière de diagnostiquer très tôt le...
Alors, nous, quand on a été confrontés à ce problème-là en ce qui concerne mon fils, si vous voulez, c'était il y a de nombreuses années. Et en fait, qu'est-ce qui nous a alertés? C'est le comportement. On n'a pas compris son comportement. On n'a pas compris son opposition. On n'a pas compris sa révolte. On n'a pas compris sa violence. On n'a pas compris ses oppositions systématiques qu'il y avait avec nous, ouais. Avec ma femme et moi. Donc là, on a cherché à comprendre. Et à un moment donné, il a consulté et on a réalisé qu'il était bipolaire. Mais il souffrait de troubles bipolaires depuis beaucoup plus longtemps que le jour où il a été diagnostiqué.
Pierre, qui a été journaliste avant d'être humoriste, qui est sur scène toujours.
Oui.
Vous étiez à RTL, vous êtes passé par Europe 1 également.
J'ai fait les deux.
Vous êtes Europe 1 et RTL. Politique. Vous êtes en retraite officiellement depuis combien de temps? Vous touchez la retraite depuis combien de temps?
J'ai 82 ans, je touche ma retraite depuis une dizaine d'années. Mais j'ai pas envie de m'arrêter.
Parce que nous avons le grand spécialiste de la retraite. Simplement depuis 10 ans, depuis 60.
Oui, parce que
vous n'aviez pas tous les trimestres.
Je m'en suis pas occupé tout de suite parce que j'étais sur scène tout le temps. Alors voilà.
Bon, voilà le problème. Il faut s'en occuper.
Il faut s'en occuper. Je suis d'accord avec vous. Bon, alors vous avez dit c'est mort pour Gauthier Lebret. Monsieur Guibert qui est de 64.
Voilà.
Non. Lui, il va toucher.
Alors lui, il va toucher.
Mais est-ce qu'il va toucher jusqu'au bout ou est-ce que passer à 80 ans, on lui dira
il va se passer.
On n'est pas loin, vous me direz. Mais...
Il va se passer plusieurs choses.
Je vous signale que vous êtes là, vous avez la même année de naissance que moi. Hein. Vous êtes au courant. Hein.
Donc, alors est-ce qu'on va... Alors voilà, la bonne question. Parce qu'on va s'intéresser qu'à nous.
J'allais vous répondre déjà.
On va globalement vivre jusqu'à 90 ans.
Ouais, à peu près.
À peu près. Enfin, on espère.
Donc on a.
Est-ce qu'on aura notre retraite jusqu'à 90 ans?
Non, alors l'idée globale, c'est qu'on va revenir à l'origine de la retraite, qui est une indemnité retraite. C'est-à-dire, on va tendre vers ça.
C'est-à-dire quoi? C'est pour tout
une indemnité de retraite, ça va être un équivalent d'un minima sociaux.
Oui, mais vous voulez dire que nous, qui avons cotisé toute notre vie, il est possible qu'à 87 ans, on nous dise, monsieur, avec tout ce que vous avez donné...
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous grignoter année après année par des règles d'indexation ou de non-indexation sur l'inflation. De toute façon, vous ne faites pas d'illusions, il y a la possibilité, on vient d'avoir les chiffres aujourd'hui, du déficit public. On est à 5,5%. C'est-à-dire 5,5%, les deux sujets sont intimement liés. Le coût des retraites est un des postes de dépenses principales du gouvernement. Il faut comprendre quand même, parce qu'on joue avec les chiffres, c'est-à-dire qu'on dit 5,5%, on s'est tellement habitué à la gabegie qu'on se dit,
les chiffres,
grave.
Ça ne veut rien dire, je suis d'accord avec vous.
Grave,
mais les retraites, quand l'État, par exemple, dépense 100 euros, il dépense combien pour les retraites?
Il dépense à peu près entre 15 et 20 euros. Et attendez, ça c'est le début. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir toutes les classes de baby-boomers qui arrivent à la retraite et qui vont vivre 25-4 ans.
On n'est pas des baby-boomers, nous.
On est fin de baby-boomers.
On n'est plus
de...
Mais non.
Donc 20 baby-boomers.
En 64, c'est plus un baby-boomer, enfin.
Donc 25, fin de baby-boomers.
Vous n'êtes pas de baby-boomers, ça veut rien dire.
Vous êtes un boomer comme moi.
Ah, un boomer, mais on n'est pas des baby-boomers. Le baby-boomer, c'est 47, 48, 49.
Non, ça se prolonge jusqu'à à peu près au début des années 60. Donc
voilà,
on est encore
dans le cadre des baby-boomers, cher ami.
C'est la génération qu'on appelle la génération du baby-boom, puisqu'il y a eu énormément de naissances à ce moment-là.
Les années 60, c'est ça.
Et voilà, absolument.
Alors là, non, que, ça, c'est la première fois qu'on me dit que je suis un baby boomer. Là, franchement, j'aurais appris. Là, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais bon.
Il va falloir vous y faire, mon cher ami.
Soit.
Bon. Non, ce qui est important, c'est.
Bon, et ça, c'est à partir de quand, alors, à votre avis?
Ah ben, je pense qu'on y est, là. Hein. On est dans le dur, hein. 5,5%.
Oui, mais pour le moment, personne n'a touché aux retraites. Oui, là, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont peut-être retraités.
Alors, d'abord, il y a les élections européennes. Oui. Post-élection européenne, déjà, on va avoir des discussions sur les impôts et les réductions des dépenses, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut se dire qu'à 5,5%, on est dos au mur. La situation est grave. Il faut tirer la sonnette d'alarme.
Vous pensez, par exemple, que les retraites, on peut diminuer les retraites ou les plafonner?
Non, je pense que petit à petit, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va allonger la durée de travail, s'il y a du travail pour les seniors, parce que je rappelle quand même qu'on dit on va allonger la durée de travail, sauf qu'on est le pays... le développer, qui a le taux d'emploi des seniors le plus bas possible. Donc ce qu'on va faire, il ne va pas y avoir une révolution du jour au lendemain, oui. C'est qu'on va grignoter année après année à la fois le montant des retraites que pourront espérer avoir les gens qui ont 25, 30 ou 40 ans. Moi je dis en dessous de 40 ou 45 ans, il n'y aura plus de retraite, il y aura une indemnité de retraite.
Bon, comment les gens vont payer les maisons de retraite par exemple?
Ah ben ça va être un sujet majeur. Hein. Ah oui. De toute façon, ça va être un coup pour l'État. Et donc, on va se retrouver à nouveau dans cette gabegie parce qu'on n'a pas poussé les gens. Et d'ailleurs, en fait, on dit on n'a pas poussé les gens parce qu'on a eu peur d'un mot qui est la retraite par capitalisation. Oui. Ce mot-là, il fait tellement peur et que pourtant... personne ne veut l'utiliser. Non, alors moi, je trouve que le terme est mauvais. Parce que retraite par capitalisation, oui, mais... on pense fonds de pension américain, on pense anglo-saxon, on pense faillite.
Mais monsieur Fiorentino, pardonnez-moi de couper, c'est toujours la même question. Le privé est à l'équilibre.
Le privé est totalement à l'équilibre.
Bon, ben alors voilà, c'est quand même une honte. Enfin, on n'a pas. Et le public ne l'est pas.
Le public ne l'est pas.
Et la réforme, elle n'a pas touché le public, elle a touché que le privé. Non,
ça, vous avez tout à fait raison.
Ben évidemment que j'ai raison.
Elle a touché aussi le public.
Non, mais attendez, attendez, le sujet.
Moi, je veux pas que ce soit l'État qui s'occupe de ma retraite. Non. C'était très bien, Gérard Carco. Oui. Parce que je sais que si l'État s'occupe de ma retraite, ça va être le bordel, comme toujours.
Ce qui va se passer.
Vrai ou pas?
Non, ce qui va se passer.
Vrai ou pas?
C'est vous qui devez vous occuper de votre retraite.
Oui,
mais attendez.
Ça risque je vous dise qu'on paye depuis 40 ans. Jusqu'à présent, l'État, il s'est bien occupé de mon salaire.
Ce que je dis.
Donc je voudrais bien qu'il s'occupe de ma retraite un peu.
Ce que je dis, c'est qu'il faut favoriser, dès aujourd'hui, pour les gens qui sont jeunes, la retraite par l'épargne. Ce n'est pas la retraite par capitalisation.
Je suis d'accord.
Oubliez ce terme de retraite par capitalisation parce qu'il fait peur et il est connoté. Mais la retraite par l'épargne.
Même si à l'origine, c'était une idée de gauche.
Absolument.
Oui, mais
absolument.
Vous, on oublie de le dire.
Absolument.
Pourquoi la retraite privée marche-t-elle et pourquoi la retraite publique ne marche-t-elle
pas? Alors, même la retraite privée, à terme, est en danger. Alors, la retraite publique ne marche pas, ça, on sait.
Pourquoi?
Bah, elle marche pas parce que on donne aujourd'hui des conditions. Par exemple, un fonctionnaire ou certains fonctionnaires ont jusqu'à 75% de leur dernier salaire en retraite. C'est juste impossible.
C'est-à-dire qu'ils ont 6 mois, c'est pour le privé.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cotisé suffisamment pour pouvoir payer cette retraite-là. Donc on a aujourd'hui un système qui est totalement déséquilibré et qui va dans le mur.
Quel scandale. Vraiment, c'est un vrai scandale.
Mais ça, oui, parce qu'il y a très
c'est un scandale.
Le sujet est plus vaste que ça. Le scandale, c'est le scandale des dépenses publiques. C'est-à-dire, c'est le scandale. Ben oui, mais c'est majeur.
Alors vous dites qu'il y a 4 solutions. Allonger la durée de la vie active.
Oui, ça, on n'a pas le choix.
Réduire le niveau des pensions. Puis l'ajuster en fonction de l'espérance de vie, réduire le niveau des pensions.
Je ne dis pas qu'il y a 4 solutions, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas les solutions que je prône.
Je suis d'accord. Augmenter les cotisations.
Absolument. Mais non, mais c'est sûr.
Et encourager l'épargne retraite, ça vous venez de le dire.
Ben voilà, mais c'est sûr ça.
Mais réduire le niveau des pensions, vous imaginez. Certain. Mais quand?
Mais on va le faire progressivement. Le simple fait, par exemple, là, on a fait une indexation importante sur l'inflation pour faire plaisir aux futurs électeurs.
Et qui votent
dans les années qui viennent. Là, déjà, il n'y aura plus d'échéance parce que 2027... Bon, bah Emmanuel Macron se représente pas. Donc à partir de 2025, on va commencer à avoir de très mauvaises nouvelles.
Phrase,
de très mauvaises nouvelles sur l'indexation
petite
des retraites.
Pour mon ami Philippe Guibert, on avait un âge de départ à la retraite à 65 ans, 45, et on rame actuellement pour le ramener au même niveau, alors qu'on vit 20 à 25 ans de plus.
Oui.
Quand tout cela a-t-il dérapé? en 1982 avec le gouvernement Pierre Mauroy.
Alors, on va recommencer à discuter. Non, mais c'est,
non, non,
mais
ah, c'est monsieur qui a dit.
Non, 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 mais c'est vrai. Il y a
c'est
un pas comité moi. De répétition quand même. Là.
C'est,
non,
pas, c'est
moi,
monsieur.
C'est moi qui le dis. Hein, donc,
c'est pas là, moi, c'est pas, monsieur.
Moi, je vais en fait, à 60 ans. Mon père qui donc, a commencé à travailler à 14 ans, en 1940, et qui a arrêté de travailler grâce à la réforme Mitterrand à 60 ans et 46 ans.
Non, mais on ne peut pas se baser sur des exceptions.
C'est toute la génération qui n'a pas fait d'études et qui a commencé à travailler très tôt, ce qui pour la génération de nos parents, était le cas majoritaire.
Mais
la...
Non, ce n'est pas le cas majoritaire.
Ils n'avaient pas le bac et ils ne faisaient pas d'études supérieures.
Je croyais qu'on avait fait une réforme de retraite récemment.
Non, mais des
réformes. Il avait mis tous les gens dans la rue.
Non, la réforme des retraites, il en faut 10 encore pour arriver à un système. Donc on va en avoir une tous les deux ans.
49 non, mais votre livret, non, mais ce pays, je vous assure. Le guide pour sauver votre date. Mais là, pour le coup, ce n'est pas simplement les dirigeants qui sont responsables, c'est les Français.
Bien sûr.
Voilà. Les Français ne veulent pas entendre la vérité depuis toujours.
Je ne suis pas sûr.
Les efforts, c'est toujours pour les autres.
Non, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vais vous donner une indication qui prouve le contraire. Mmh. C'est que les Français ont le taux d'épargne le plus élevé des pays développés. Ça veut dire qu'eux-mêmes, d'un côté, ils réclament plus, mais ils savent que l'État va dans le mur. Et donc, ils font leur propre épargne. Parce qu'ils sont persuadés. Vous dites, les gens nous entendent, ils vont être choqués par ce que je dis. Bah, pas du tout, parce que les gens, s'ils épargnent 17,5% de leurs revenus, 17,5% de leurs revenus en moyenne, c'est qu'ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de retraite et qu'on va dans le mur.
Et pourquoi il n'y aura pas de retraite?
Parce qu'il n'y a pas de moyens.
Parce qu'il n'y a pas de moyens.
Parce qu'il n'y a plus d'argent. En
parce
fait.
Que l'argent.
C'est ça que vous n'avez pas compris.
Vous voyez, on a
fait, il n'y a plus d'argent.
Pour l'instant,
on paye
les retraites.
Non, mais sur la dette, sur l'emprunt.
Non, mais
plus d'argent. Non, mais il pense que l'argent est magique.
Non, mais c'est ça,
c'est comme le Parti Socialiste.
On a deux Bruno Le Maire, mais le Bruno Le Maire, qui est ministre de l'argent magique, aujourd'hui, il est face au Bruno Le Maire qui a écrit son bouquin et qui dit il n'y a plus d'argent magique.
Il n'y a plus d'argent.
Donc il n'y a plus d'argent, c'est-à-dire qu'avant on avait la possibilité de faire du déficit, après on a eu la possibilité d'emprunter de l'argent parce que les taux étaient négatifs, sauf que maintenant les deux,
c'est la pyramide de Ponzi.
Donc vous ne pouvez plus aller vers un DAB et tirer de l'argent magique.
Il faut dire quand même qu'on a des pensions de retraite qui sont plus élevées que tous vos voisins européens.
Oui, absolument.
Oui, mais c'est normal, puisqu'on paye plus.
Ce que je dis.
On cotise plus.
Je dis, on va revenir au système de la...
La désindexation des pensions de retraite est inéluctable.
C'est ce qui vous dit.
Voilà. Donc il y a toujours d'argent pour payer. Là où je vous
non, non, pas, non, non, non,
c'est que vous expliquez qu'il n'y aura plus d'argent Somaya. Pour payer des retraites.
Non, voilà. je dis qu'il n'y aura plus d'argent pour payer des retraites à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui, mais qu'il y aura de l'argent pour payer une indemnité de retraite.
Il y a également le meilleur placement pour les nuls. Tous mes conseils pour placer votre argent et
ne le prenez pas personnellement. Hein, je vous
Non, mais alors franchement, moi, je voudrais bien que vous soyez mon ministre des Finances, hein, parce que c'est là, j'ai pas été terrible là-dedans. Mais pour une
raison, il n'est jamais trop tard.
Oui, mais...
Non, il n'est jamais trop tard.
Je suis d'accord avec vous, mais bon, j'ai toujours l'impression que je vivrai longtemps. C'est idiot.
Et que je travaillerai surtout. Vous avez l'impression que vous allez vivre longtemps, qu'il faut vous en occuper.
Mais je sais, mais je refuse la réalité.
Ben, c'est un réflexe. Vous savez ce qu'aurait dit Marchais ?
Oui.
Il aurait dit, la solution, c'est les distributeurs. Il faut prendre l'argent là où il est.
Au-dessus de 40 000 francs, je prends tout. Mais peut-être vous-même, M. El Kabach et M. Duhamel, êtes concernés. Vous êtes des cumulards.
Ouais, pas tort.
Il avait dit 40 000 francs à l'époque. Au-dessus de 40 000 francs, campagne de 81, au-dessus de 40 000 francs, c'est-à-dire c'est 7 000, je prends tout. Tout. Vous vous rendez compte?
Ben oui, ça vous fait rire, mais bon.
Somaya Labidi. Somaya Labidi est avec nous.
Un dérapage important pointe le président de la Cour des comptes. Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023, quand la dette s'établit à 110,6%. Toutefois, Bruno Le Maire affirme être, je cite, opposé à toute augmentation d'impôts. Les tracteurs à nouveau à Bruxelles. Bruxelles qui lance son dialogue stratégique sur l'agriculture dans un contexte électrique. Dialogue promis par Ursula von der Leyen pour désamorcer la colère des agriculteurs avec au menu une révision de la PAC politique agricole commune. Et puis on en sait un peu plus sur leur parcours. Selon un responsable turc sous couvert d'anonymat, deux des suspects de l'attentat de Moscou auraient voyagé librement entre Russie et Turquie. L'attaque perpétrée vendredi dernier et revendiquée par l'OI a fait plus de 130 morts.
Bon, le meilleur placement, ça serait bien que vous veniez, parce que alors, vous parlez économie, je comprends tout, donc ça serait bien que vous veniez régulièrement.
Ben, invitez-moi,
parce qu'il y a mal, voilà. Et un meilleur
on a parlé du chiffre quand même, hein, les 5,5%.
Oui, bien sûr. Oui,
mais
oui.
Voyons, ça passe à la trace. C'est très grave. Hein.
Oui.
5,5%, c'est dramatique.
On oui, est mais les États-Unis, paraît-il, ont 8.
On est l'avant-dernier pays oui. de la zone euro en termes de déficit et on n'a plus les moyens, du fait du déficit, d'emprunter de l'argent et de mettre de l'argent.
J'entends bien, mais les États-Unis, paraît-il, ont 8%.
Mais ça n'a rien à voir. Les États-Unis, d'abord. Les États-Unis, d'abord, c'est les États-Unis. Oui. Ils ont le dollar, nous, on a l'euro. Ils sont de puissance dominante et une partie de l'argent qu'ils ont utilisé pour leur déficit a été utilisé pour relocaliser des industries au sein des États-Unis et donc renforcer leur puissance commerciale, leur puissance financière. Nous, on a dépensé tout cet argent pour faire des plans de soutien, des plans de relance, des plans de résilience, des boucliers, des chèques à des gens qui n'en avaient pas besoin, des gens qui en avaient besoin et beaucoup à des gens qui n'en avaient pas besoin.
Quelle catastrophe!
Catastrophe. Non, mais franchement. Non,
sérieusement, la finance publique depuis 40 ans, mais on va tous les mettre dans le même sac, si j'ose dire.
Ouais, non, mais là, on a
Le dernier, c'est Raymond Barre.
Oui, mais depuis le Covid, avec le quoi il en coûte, c'est devenu une gabegie totale.
Vous aussi. Le record absolu.
Raymond Barre.
Record
absolu. Pierre, ce serait bien que vous veniez régulièrement nous voir, mais à l'heure.
Maintenant je suis invité, je serai à l'heure la première fois.
Écoutez-moi, d'abord vous rajeuniriez un peu notre plateau, ce qui est important.
Ah, mais je suis disponible.
Bien évidemment. Il fait plus jeune que vous. Hein, bon.
Vous êtes vraiment un boomer.
Ah, bah, vous m'avez dit que j'étais un baby boomer. Bon, c'est un plaisir, Pierre. Et vous êtes sur scène prochainement ?
Oui, enfin, je vais reprendre une pièce de théâtre où je suis en soutane, puisque je joue le rôle du chanoine Kir.
D'accord, mais vous faites plus d'imitation, pas one-man show.
J'ai un one-man show aussi où je fais de l'actualité politique.
Et il y a des nouvelles voix.
Non, il n'y a pas de nouvelles voix. Bon, non.
Parce que Marchais, il y a un moment.
J'imite toujours les morts parce que.
Oui, parce que plus personne ne va connaître Georges Marchais, il y a un moment. Les jeunes vont dire qui c'est ça. Bon, en tout cas, c'est sympa de vous voir et que vous veniez nous dire. Bon, et puis avec beaucoup d'émotion, je le répète, vous avez parlé d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est la bipolarité. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Je salue. Notre amie Audrey Missiraka qui est avec nous et qui vit des moments difficiles. Donc sachez qu'on pense tous les jours à elle, Audrey, que souvent vous avez entendu son nom à cette fin d'émission puisque c'est elle qui était à la réalisation. Et il ne se passe pas un jour sans que notre petite équipe pense à elle. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était à la vision, Timour était au son, Marine Lançon, bien sûr, Félix Perrolat. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et nous, on va retourner bosser parce que vous nous avez dit qu'on ne serait pas payé. Donc on va continuer sur Europe 1 tout à l'heure. Et on revient ce soir, on a bien compris qu'on bosse jusqu'à 90 ans.
Et qu'il faut vous occuper de votre argent.
Exactement. Oh, il y en a qui s'en occupent pour moi.
Ça, c'est mauvais signe.
Oui. Je salue mes enfants. La pause, non pas la pause, mais Jean-Marc Morandini, à ce soir. À ce soir.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.